chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Voici trois bonnes raisons à mon émission d'aujourd'hui. L'histoire, la grande histoire, avec Louis IX et Blanche de Castille. La chapelle royale Saint-Louis, qui est l'un des fleurons de notre patrimoine du Rocasse. Et enfin Isabelle, comtesse de Paris, qui avait écrit en 1991 un livre sur son aïeule, Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis. Après deux tomes de mémoire à grand succès publiés il y a 10 ans, en 1980, donc, la comtesse de Paris parle toujours de sa famille avec Blanche, mon aïeule, même s'il s'agit cette fois de remonter le temps pour aboutir à Blanche de Castille et à Louis IX. Une œuvre qui se lit comme un roman, avec la précision historique en plus. Voici des extraits sur celle qui forgea le destin de Saint-Louis, qui parut le 10 octobre 1991 aux éditions Robert Laffont. Le roi de 16 ans qui tient sa cour à Melun en ce Noël de l'année 1230 n'est plus un roi seul, menacé ni isolé. Le temps du petit souverain qui attendait courageusement les secours de la population parisienne enfermée dans Montlhéry est révolu. Désormais se pressent autour de lui tous les grands, tous les barons, naguère encore infidèles. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Le roi et sa mère auront encore à faire preuve de leur force, de leur courage et de leur talent diplomatique. Pourtant, les plus puissants qui n'avaient pas daigné assister au sacre du jeune roi de 12 ans, 4 ans auparavant, l'entourent aujourd'hui. Après 4 années d'angoisse, Blanche peut respirer. Elle contemple son fils qui règne seul, pense-t-elle. Les sceaux apposés sur les actes royaux signés lors de la cour de Melun en témoignent. Entourant celui du roi, assis sur son trône, en majesté, une cohorte de sceaux, représentant ses chevaliers et ses barons, lui fait comme une haie d'honneur. Philippe Hurepel a renoncé à toute velléité d'indépendance. Le comte de la Marche, Hugues de Lusignan, est présent. Thibaut de Champagne semble pour un temps revenu de ses erreurs passées. Enguerrand de Coucy, le fier chevalier, est sorti de sa tour d'ivoire. Enfin, Amaury de Montfort, sur le point de devenir connétable, vient de renoncer à ses possessions anglaises et donc à toute allégeance envers le roi d'Angleterre. Blanche a de quoi être fière de son œuvre. C'est grâce à elle et à ses talents de diplomate que Louis est aujourd'hui entouré de tous ses barons. Le roi est loin d'avoir terminé son apprentissage, mais Blanche va s'effacer quelque temps du devant de la scène. À partir de 1230-1231, les conseillers royaux, cette vieille garde capétienne qui n'a jamais faibli, semble prendre les rênes du gouvernement. Barthélemy de Roy, le vieux serviteur du roi Louis VIII, est là pour quelques années encore, et jusqu'à sa mort, en 1237, aucun changement n'interviendra dans l'équipe qui assiste et conseille Louis IX. Les prélats, enfin, Gauthier Cornu, l'archevêque de Sens, est son premier suffragant. L'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, participe activement aux prises de décision. À partir de 1231, le nom du roi apparaît seul dans les prises de décision. Mais que l'on ne s'y trompe pas, en réalité, Louis ne prendra pas d'initiative avant 10 ans encore. Blanche est toujours derrière son fils. Son but est désormais d'habituer Louis à agir en roi majeur et responsable. Elle veille néanmoins, le conseille et intervient.
Maestatis, Patre
Pourtant, les attaques moins virulentes que dans les premières années continuent à être portées contre Blanche. Quel étrange destin que celui de cette femme, que pendant des années, les chroniqueurs royaux ont fait mine de négliger et qui toute sa vie aura été accusée d'avoir une influence trop forte sur son époux, son fils, ses enfants. La mère et le fils sont toujours au levier de commande et le rôle d'éducatrice de Blanche est loin d'être terminé. Cette femme intelligente se sentira toujours responsable du royaume et de sa descendance. Elle ne pourra jamais ôter cette idée de son esprit et de son cœur. Lorsque l'on se sent responsable, on ne peut pas jeter son devoir aux orties. La royauté chrétienne, la notion de justice qu'a voulu inculquer Philippe Auguste à Louis VIII sur son lit de mort, c'est Saint Louis qui en sera le maître d'œuvre. Mais ce résultat brillant qui illuminera toute la chrétienté pendant des siècles n'est certes pas le fait du hasard. Il s'agit d'une longue préparation, de l'évolution de la foi en Dieu, de l'éducation de Blanche, des préceptes enseignés depuis des générations qui enfin pénètrent au fond de l'âme d'un homme et d'un pays. Car Saint Louis n'aurait jamais pu être le roi justicier, celui qui rend la justice sous son chêne, tel que le présentent nos manuels scolaires. Sans Blanche, ni sans les multiples serviteurs présents à la cour, mais aussi sur ses terres. À l'époque de Saint-Louis, le roi doit tirer ses revenus exclusivement de ses biens propres, le domaine royal. Au cours de leur règne, Philippe Auguste et Louis VIII l'ont considérablement agrandi. Mais à voir une carte, on se fait une idée fausse de ce qu'il est en réalité. Il ne s'agit pas uniquement de possession territoriale, comme toujours au Moyen-Âge. Certes, le roi, par l'intermédiaire de ses officiers, administre directement une partie de ce domaine, de manière à en tirer des revenus et alimenter le trésor. Mais à l'intérieur même du domaine, bien des revenus vont directement à tel ou tel chevalier qui a pour mission de garder une forteresse ou un village, qui doit le service militaire ou une redevance. Les villes, quant à elles, sont le plus souvent administrées par des maires, des consuls, des échevins. Elles représentent un potentiel financier très important, disponible à chaque fois que le roi a besoin d'une subvention exceptionnelle. Là où le roi est le seigneur direct, les revenus sont perçus par ses représentants, prévôts, châtelains, baillis et sénéchaux. Ils doivent veiller au bon exercice de la justice, percevoir les revenus et les amendes. En un mot, administrer. Le roi prend soin de se faire représenter partout, même dans les régions où il ne possède qu'une petite portion de territoire. Blanche et ses maîtres ont inculqué à Saint-Louis l'esprit de justice et tous deux s'attachent à le faire respecter partout et par tous, y compris par l'Église, car il arrive que les prélats apparaissent plus attachés à leurs biens temporels qu'au souci de convertir les âmes et de servir Dieu. Ainsi, le roi et sa mère seront très fermes dans le conflit qui les oppose à l'archevêque de Rouen dans la gestion de son domaine. Plusieurs querelles opposent ainsi la royauté et les prélats du nord de la France, et ils ont pour cause essentielle l'empiétement incessant des évêques et des archevêques sur les juridictions et les droits des baillis. Ni la foi du roi, ni l'idée de royauté chrétienne ne l'ont empêché de faire respecter ses droits et ceux de ses agents. Au total, trois affaires importantes montrent que Louis IX et Blanche ont tenu bon devant les prétentions ecclésiastiques en matière de juridiction. À l'époque de Saint-Louis, l'Église dispose de cours de justice qui ont à traiter de tout ce qui concerne la foi, y compris les affaires de mariage. En revanche, les problèmes d'administration des biens temporels relèvent normalement des justices civiles, en l'occurrence celle du roi. Mais les évêques ont souvent tendance à étendre leur juridiction à l'ensemble de leurs affaires, qu'elles soient spirituelles ou temporelles. De son côté, le roi ne peut laisser impunis les empiétements manifestes et ses baillis sont très pointilleux sur le respect des coutumes et des droits royaux. Ainsi, le conflit avec l'archevêque de Rouen a pour origine une obscure histoire de ramassage de bois dans la forêt de Louviers, bois normalement destiné exclusivement au château de Louviers que possédait alors l'archevêque, mais qu'il fit en réalité porter dans la ville de Rouen. Le bailli s'empressa de faire saisir le bois illégalement utilisé et l'archevêque riposta avec des armes spirituelles dans un conflit de juridiction temporelle. Le bailli de Vaudreuil fut excommunié. Blanche et Louis eurent alors beau jeu de crier à l'abus de pouvoir, ce qui leur donnait l'occasion de confisquer le temporel de l'archevêque de Rouen. Bientôt, l'interdit fut prononcé contre l'ensemble des agents royaux et de leurs familles dans la province ecclésiastique de Rouen. Malgré plusieurs interventions du pape Grégoire IX pour que le temporel de l'archevêque lui soit rendu, Blanche tint bon pendant 3 longues années et ce n'est qu'en 1235 qu'on parvint enfin à un accord à l'amiable. Dans l'exercice du pouvoir et le gouvernement du royaume par un roi encore en apprentissage, on reconnaît la griffe de sa mère, soucieuse de faire respecter le roi, son fils, par tous. Parmi toutes les préoccupations laissées à Blanche par son beau-père et son époux, le midi continue de tenir une place prépondérante dans les années 1230. Beaucoup de rancunes, de haine et de maladresse ont été accumulées de part et d'autre. Ce n'est pas un hasard si en quittant la région toulonnaise, le légat Frangipani avait emporté avec lui toutes les archives qui auraient pu servir à l'identification des délateurs. On continue vraiment de craindre des représailles. Raymond VII, lui-même, est pris en tenaille entre son clergé qui l'accuse de tiédeur dans la lutte contre les hérétiques et la crainte d'en faire trop dans son comté, risquant ainsi de le mettre encore une fois à feu et à sang. Le pape Grégoire IX est d'ailleurs bien loin d'être totalement hostile au comte de Toulouse. Il alterne bienveillance et excommunication selon ce que lui rapportent ses légats. qui tantôt ont parti lié avec le clergé languedocien, tantôt prennent parti pour le comte dont la situation est toujours instable. Blanche de Castille, pour sa part, soutient son cousin du mieux qu'elle peut. Le traité de 1229 avait pour but de rétablir la paix et de préserver l'avenir en empêchant que la région soit mise à sac. Elle veille désormais aux intérêts du comte. Les positions de la royauté dans le Midi provençal ou languedocien sont d'ailleurs de plus en plus importantes depuis qu'il y a des officiers royaux à Nîmes et à Carcassonne. Depuis le siège d'Avignon, les Capétiens s'intéressent à ce qui se passe dans le royaume d'Arles, c'est-à-dire le comté de Provence. Le royaume d'Arles, le comté de Provence, dépend de l'empereur Frédéric II, très intéressé à conserver ses appuis dans la région, ce qui lui faciliterait le passage vers Rome et l'Italie à chaque fois que c'est nécessaire. D'un autre côté, le marquisat de Provence, le comtat vénécin, situé lui aussi en terre d'Empire, fait partie des possessions du comte de Toulouse Raymond VII. Mais il a été confisqué et confié au Saint-Siège en 1229, puis rendu à la garde du roi de France. Depuis, le comte de Toulouse n'a de cesse d'avoir récupéré son marquisat, d'autant plus que de vieilles querelles opposent depuis des générations comte et marquis de Provence. Raymond VII s'est ainsi allié aux Marseillais contre le comte de Provence Raymond Béranger et souhaite retrouver son bien pour disposer d'une base sûre dans l'arrière-pays. Chacun des deux comtes cherche alors à obtenir l'appui du pape, de l'empereur et même du roi de France. Ainsi, Raymond VII, pour récupérer le marquisat, procède en deux temps. Il intervient auprès de Blanche de Castille, sa cousine, pour lui demander son appui. Obtient du roi de France que les garnisons françaises soient retirées du comtat vénécin et réclame ensuite l'investiture de l'empereur sur son domaine. Il lui a fallu auparavant payer de sa personne en allant combattre avec Frédéric II et le pape Grégoire IX, les Romains, qui s'étaient révoltés contre le pontife. Le Saint-Siège s'est incliné et admis que le comte de Toulouse avait très bien joué la partie. Mais la tournure que prennent les événements ne plaît pas vraiment à Grégoire IX, qui sent lui échapper l'influence qu'il peut avoir sur l'empereur et le Midi languedocien et provençal. Sur ce point précis, il rejoint les préoccupations de Blanche, qui n'apprécie guère de voir l'influence française baisser au-delà du Rhône, tant que le comte de Toulouse et le comte de Provence cherchent chacun à obtenir les faveurs de Frédéric II. Raymond Béranger n'envisage-t-il pas de donner sa fille aînée, Marguerite, à l'empereur pour s'assurer la protection de ce dernier contre les menées de son rival ? Ce n'est du goût ni de Blanche ni de Grégoire IX, le pape, qui refuse tout net d'accorder les dispenses de consanguinité nécessaires. Pendant ce temps, Blanche reprend l'offensive. Puisque le moment est venu de marier son fils aîné, qui approche de la majorité, elle va peut-être pouvoir faire d'une pierre deux coups en imposant l'influence française dans le Midi provençal et en trouvant une épouse pour Louis parmi les quatre filles du comte de Provence que l'on dit très belles. Profitant de ce qu'un chevalier français, Gilles de Flagy, est chargé d'une mission de médiation entre le comte de Toulouse et le clergé languedocien, elle lui demande de descendre dans le Midi par la vallée du Rhône, afin qu'il s'arrête chez le comte de Provence et propose les services du roi de France dans l'affaire qui oppose Raymond Béranger à Raymond VII. Gilles de Flagy séjourne effectivement au château, au beau de Provence, alors au temps de leur splendeur. Prend la peine de discuter avec son hôte. Sans doute parvient-on à un accord de principe. Le comte de Toulouse et le comte de Provence accepteront la médiation du roi de France dans les conflits qui les opposent. Et Raymond Béranger donnera à Louis la main de sa fille aînée, Marguerite, qui sera dotée en argent. Quelques mois plus tard, en mai 1234, l'archevêque de Sens, Gauthier Cornu, accompagné de Jean de Nesle, vient chercher la future reine dans le comté de Provence et règle avec Raymond Béranger les détails de l'accord. Ainsi est réalisée la première partie de la prophétie qui a promis au comte de Provence que de ses quatre filles, il ferait quatre reines. Marguerite est sur le point de devenir reine de France. Sa cadette Éléonore ne tardera guère à épouser le roi d'Angleterre. La troisième, Sanche, sera mariée au frère du roi d'Angleterre, Richard de Cornouailles, qui deviendra roi des Romains. Enfin, la dernière, Béatrice, épousera le plus jeune frère de Saint-Louis, Charles d'Anjou, destiné à devenir roi de Sicile. Avec le mariage français, la Provence va définitivement basculer dans la sphère d'influence capétienne. Certes, il faudra attendre encore deux siècles avant que le comté soit directement administré par des officiers royaux. Mais le pas est franchi. Et avec la Provence, c'est toute la famille de Savoie qui devient proche des Capétiens. Raymond Béranger est en effet l'époux de Béatrice de Savoie, sœur du comte Thomas de Savoie et de beaucoup d'autres frères qui sont pour la plupart de hauts prélats. Ainsi, c'est Guillaume de Savoie, évêque de Valence, oncle de Marguerite, qui accompagne la jeune princesse dans son voyage jusqu'à Sens, où doit être célébré le mariage royal. En effet, en 1234, le roi et sa mère sont en lutte ouverte contre l'archevêque de Reims, Pierre de Dreux. Puisqu'il doit y avoir mariage et couronnement, autant le faire à Sens, dont l'archevêque est l'un des membres les plus importants du conseil du roi. Remontant le cours du Rhône, la future reine fait une petite halte dans l'abbaye de Tournus le 19 mai, le temps de se recueillir et de reprendre des forces pour la fin du voyage. Le 26 mai, la voici enfin à Sens, où le mariage est célébré dès le lendemain. Blanche et son fils n'ont rien négligé pour accueillir la jeune fille avec tout le faste nécessaire. En partant de Paris, on a transporté des quantités incroyables de vivres, de nappes, de linge, de draps. Se souvenant de son mariage à la Sauvette, Blanche a voulu compenser ce manque de pompe par une cérémonie digne d'un roi de France. Elle ne voulait pas que dès le début, sa belle-fille se sente triste comme elle l'avait été. Sur le chemin de Sens, on a prévu des gîtes provisoires, des pavillons et des tentes pour recevoir tout le monde convié à la fête. Dans l'animation des préparatifs, tout un petit monde d'artisans revit sous nos yeux. Depuis les albalétriers, qui constituent la garde d'honneur du roi, jusqu'au maréchal Ferrand, responsable d'une quantité de chevaux qui transportent à Sens tout le matériel nécessaire à la fête. Thank you. les barons sont conviés au mariage et tous se présentent, alors qu'on est à deux doigts de reprendre la lutte contre la coalition entre la Champagne et la Bretagne. Si les plus jeunes enfants, Isabelle et Charles, sont demeurés à Paris, confiés à la garde des bourgeois de la ville, les frères du roi prennent une part active aux préparatifs de la fête. Robert, notamment, est passé maître dans l'art d'organiser les spectacles de ménestrels, musique, chansons et rires, et même les danses. La danse, pourtant, n'entrera véritablement dans les mœurs que plus tard. Pour l'heure, il en est qui s'étonne de voir des couples se trémousser en musique et y cherche une explication sociologique. On pratique la danse pour manifester si les amoureux sont en bonne santé et bien sur leurs jambes, après quoi il leur est permis de s'embrasser. Nul ne sait si ces sentiments ont agité Marguerite de Provence et son jeune époux le roi au moment du mariage. Sous la guirlande de feuillage, dans la tribune aménagée devant la cathédrale de Sens pour permettre au jeune couple de voir le spectacle, l'un comme l'autre sont resplendissants. Dans de somptueux atours, le roi vêtu de tissu bleu, d'écarlate rouge et d'écarlate violette, tandis que la jeune épousée a passé un manteau fourré au gros et au menu vert, d'hermine et de zibeline. Au cours de la cérémonie du mariage, Marguerite est couronnée, comme Blanche l'a été le jour du sacre de son époux. La mère du roi n'a pas lésiné sur les moyens. C'est une couronne d'or qui vient parer le front de la jeune fille, éblouie et recueillie, en admiration devant ce grand jeune homme qui semble la dévorer des yeux et dont elle vient de tomber éperdument amoureuse. En la regardant, Blanche se reconnaît-elle. La jeune fille qu'elle vient de donner à son fils à 13 ans est aussi bien éduquée que peut l'être une jeune princesse. Elle incarne la jeunesse et la beauté, au point que certains n'hésiteront pas à voir en elle l'inspiratrice de ce roman de la rose qui fera les délices de toutes les cours amoureuses d'Europe pendant des décennies. On dit que le mariage de Louis et de Marguerite fut sans nuages, que la reine avait choisi une épouse parfaite pour son fils. Est-ce un excès de zèle de l'hagiographe du roi, le sire de Joinville ? Bien des années plus tard, il rapporte également que le jeune couple passa 3 longues nuits en prière avant de consommer leur union. Voilà qui est bien dans l'esprit de Saint-Louis, mais d'un Saint-Louis plus âgé, déjà en marche vers la sainteté, alors qu'en 1934, il se préoccupe certes d'être un roi chrétien, mais pas encore un saint. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera pour vous parler de ces rois qui ont fait la France, dans Bienvenue chez le roi, enregistré et réalisé par Émilie Glory dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.